6h-8h.
Matin première.
Medical Fat.
Il est 7h11, bienvenue dans le parti pris du journaliste Alain Gerlache. Bonjour Alain.
Bonjour Mehdi, bonjour à tous.
Et dit professeur à l'ULG et à Sciences Po Paris, François Gemène, bonjour.
Bonjour.
Et on commence par l'actualité internationale de la semaine.
Demain sera un nouveau jour pour les États-Unis. Souvenez-vous de cette sensation, de cette force quand on gagne.
C'était un grand jour hier, une journée incroyable. La nuit dernière, le Parti républicain a défié l'histoire pour étendre sa majorité au Sénat et a défié les pronostics à la Chambre.
Alors, vous venez d'entendre la chef de file démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, et le président américain Donald Trump. Et ben, je me demande, en les écoutant tous les deux, François Gemène, les élections mi-mandat aux États-Unis, c'est comme l'école des fans, tout le monde a gagné ?
Pas du tout. Ce sont clairement les démocrates qui ont gagné. Et d'ailleurs, Mehdi est moins très sûr de le savoir. Donald Trump a déclaré triomphalement sur Twitter que les élections étaient un grand succès pour les républicains. C'est donc que les démocrates ont gagné. Pour trois raisons. Premièrement, Le récit un peu dominant dit, voilà, les démocrates ont pris la Chambre, mais les républicains gardent le contrôle du Sénat, remportent même deux sièges supplémentaires au Sénat. C'est allé un peu vite et c'est une analyse un peu simpliste, parce qu'en réalité, le Sénat américain est renouvelé par tiers, tous les deux ans. Ça veut dire qu'il y avait 33 sièges en jeu, dont une grande majorité de sièges démocrates. Il y avait 23 sièges démocrates qui étaient en jeu. Pour que les démocrates remportent la majorité au Sénat, il fallait qu'ils gagnent 28 sièges sur 33. C'était mission quasiment impossible. Ils en ont quand même gagné 21 sur 33. Ça veut dire qu'ils ont gagné cette élection-là aussi, et ça veut dire qu'en 2020, dans deux ans, il y aura beaucoup plus de sièges républicains en jeu. Il suffira aux démocrates de remporter la moitié des sièges pour reprendre le contrôle du Sénat également, et donc ils sont bien positionnés pour le Sénat. Deuxième raison, c'est que de nombreux démocrates sont parvenus à séduire les modérés sans trahir leur base, et notamment l'électorat démocrate s'est recruté dans les banlieues américaines qui avaient voté pour Trump à la précédente élection. Ça veut dire qu'il y a une voie pour les démocrates qui consiste à sortir de la quadrature du cercle, qui consistait à la jouer à la fois modérée et plus radicale, et donc quelque part à réconcilier Hillary Clinton et Bernie Sanders. C'est une excellente nouvelle pour les démocrates. Troisième bonne nouvelle pour les démocrates, ils sont parvenus à faire émerger de nouveaux visages. Il y a de nouveaux candidats relativement enthousiasmants. On pense bien entendu à Beto O'Rourke au Texas, on pense à Alexandria Ocasio-Cortez à New York. Ce sont de nouveaux candidats qui vont porter le Parti démocrate en vue des prochaines élections. Il reste maintenant à se mettre d'accord sur la question du leadership. Mais ça veut dire pour les démocrates que Donald Trump peut être battu, y compris dans une période d'embellie pour l'économie américaine.
Alain Gerlache, les démocrates ont gagné.
Bah écoutez, on peut ironiser sur Donald Trump, hein, qui parle d'une grande victoire, mais en fait, il ne fait pas autre chose que ce que, par exemple, les présidents du PS, du MR et du CDH ont fait chez nous il y a trois semaines lors des élections communales. C'est la loi du genre, personne n'est dupe. Mais enfin, remettons quand même les choses en perspective. Qui pensait, il y a quatre ans, que Donald Trump serait un jour président des États-Unis? Il était détesté par l'establishment du Parti républicain. Le Brexit n'était qu'une vague hypothèse. Le Parti des travailleurs était encore au pouvoir au Brésil. L'Italie était encore dirigée par la gauche. Et Angela Merkel, la grande ennemie de Trump, était solidement à la tête de l'Allemagne. Aujourd'hui, les pays tombent comme des dominos, les uns après les autres, dans le camp populiste. L'Europe est en crise. Trump est plus que jamais l'homme fort de son parti. Il peut se permettre toutes les outrances, comme on l'a encore vu avec ce journaliste de CNN. Et face à lui, un parti démocrate sans leader, vous l'avez dit, François, dont les positions idéologiques vont de Mélenchon à Macron, et je ne suis pas sûr qu'elles soient réconciliées. Et surtout dans un monde où la perception est déterminante, Trump apparaît déjà comme le vainqueur de 2020, en tout cas on le dit. Alors, moi je trouve que c'est quand même pas mal pour quelqu'un que certains continuent à présenter comme un crétin. Je dirais qu'aujourd'hui, un spectre hante le monde, le spectre du trumpisme. Trump n'a peut-être pas vraiment gagné, mais le trumpisme est en train de gagner, et c'est peut-être plus inquiétant pour les démocrates.
Mais vous l'avez dit vous-même, Alain, tout peut changer en deux ans, et 2020, c'est dans deux ans.
Exactement. Mais vous savez, moi je pense en effet que la seule chose qui joue contre Trump, c'est le temps. Mais deux ans, ce sera peut-être trop court, parce que finalement, ce qui est en train de se passer, c'est la victoire, la revanche des WASP, hein, les anglo-saxons blancs protestants, ce sont eux qui sont encore le socle de l'électorat de Trump. En face, il y a une Amérique plus diverse, plus arc-en-ciel, plus colorée. Mais la diversité, ce n'est pas un but en soi. Il faut aussi trouver une manière de redéfinir l'union. C'est ça qui est fondamental aux États-Unis, dans la diversité. Et ça, on ne le voit pas encore apparaître, ni aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde.
Certainement, mais l'avantage des démocrates, comme je le disais, c'est qu'ils sont parvenus à faire émerger de nouvelles figures. Et n'oublions pas que l'électorat WASP dont vous parlez, c'est un électorat qui vieillit et donc qui meurt aussi.
On ne parviendra pas à vous réconcilier ce matin sur ce dossier, en tout cas. Allez, on poursuit avec un autre dossier du moment, la presse, avec le sort du groupe L'Avenir.
L'Avenir s'est affaibli. Ce n'est pas normal que l'actionnariat et l'équipe de direction n'aient pas transformé cette entreprise. Oui, il faut réduire les coûts. Mais pas comme on le propose. C'est pas comme ça qu'on travaille.
Voilà la déclaration de François Léaudet, patron du groupe IPM, qui édite notamment La Libre et la DH, candidat à la reprise des journaux du groupe L'Avenir, qui sont dans le giron de Publifine Nétis. Le gouvernement et le Parlement wallon réfléchissent à la manière de sauver le journal. Alors, Alain, le futur de L'Avenir, est-ce qu'on a les moyens d'une presse pluraliste ?
Mais écoutez, qu'est-ce que le pluralisme, en fait Est-ce que c'est l'existence de différents groupes de presse, le choix entre des médias de sensibilités différentes, ou alors la pluralité des points de vue au sein d'un même journal? On peut avoir des groupes différents, des médias différents, mais si c'est pour qu'ils soient tous de gauche ou de droite, où est le véritable pluralisme? Alors évidemment que le marché est petit, évidemment que la presse n'est pas une activité très rentable où les investisseurs se précipitent et que la concentration, ça présente des risques. Mais enfin, en Flandre, par exemple, le journal populaire, plutôt libéral, Het Laatste Nieuws, et le quotidien progressiste de Morgen, eh bien, ils font partie du même groupe et tout le monde s'en accommode. Ce qui est important, c'est l'indépendance rédactionnelle et la rigueur journalistique. C'est ça qui est déterminant. Il faut peut-être aussi réfléchir à la notion de service public. Est-ce qu'il faut continuer à le voir comme au XXe siècle, ou bien alors il faut envisager, dans un paysage où on le voit bien, l'information est menacée. Pas seulement la presse, l'information en tant que telle. Est-ce que ce n'est pas l'information qui doit devenir un service public ?
François Gemène.
Là, pour le coup, je serais assez d'accord sur l'idée que l'information en démocratie est une forme de bien public et que ce n'est pas parce que mon voisin connaît cette information que je profite moi-même de l'information, au contraire. Et donc le problème, c'est que dans la logique où on est de restriction des coûts pour la presse, ça veut dire qu'on réduit le nombre de journalistes et que donc on réduit aussi la qualité de l'information et donc sa diversité et sa pluralité. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand défi pour la presse, en tout cas pour la presse écrite, c'est de sortir de la course à deux chimères. La première chimère, je dirais que c'est Internet et la question du support. J'ai envie de dire, se focaliser sur la question du support, à mon avis, c'est une erreur. Ce qui compte, ce n'est pas le support, c'est le contenu. Deuxième erreur, à mon avis, c'est de penser que la presse peut être rentable grâce à la publicité. Un lecteur sur Internet vaut beaucoup moins, publicitairement parlant, qu'un lecteur papier, et jamais un journal ne pourra survivre uniquement grâce à la publicité. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des journaux qui deviennent des sortes de joujoux dans les mains d'actionnaires qui les utilisent un peu comme des sortes de trophées. C'est un peu ce qui s'est passé, malheureusement, avec L'Avenir, et donc il faut redonner, à mon avis, davantage de poids aux journalistes dans la décision et effectivement arrêter avec l'idée qu'un organe de presse doit forcément être rentable.
Dites, je voulais vous faire réagir à chaud à l'information de ce matin, le propriétaire de L'Avenir, Publifine, qui va changer de nom pour s'appeler Enodia. Ça évoque quoi chez vous, ça ?
Ce qui est très curieux, c'est que Publifine, avant le scandale, personne ne connaissait cette marque. C'est une sorte de société écran de gestion d'actifs. La marque commerciale, c'est pas Publifine, c'est Nétis. Et d'ailleurs, cette marque est tellement peu connue qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui si on doit dire Publifine ou Publifin. Et donc, c'est un peu curieux de vouloir changer un nom que personne ne connaissait avant le scandale.
Alors, Enodia, ça veut dire où il n'y a pas de nœud, hein, eh bien...